Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio et à l'écoute de Saint François. Quelques jours après, Pierre dut entreprendre un voyage avec Angelo. La mère aspirait à ce moment avec impatience. Elle s'était déjà jetée aux genoux de son mari pour qu'il lui permît de voir son fils, mais il avait repoussé du pied. Une nuit, elle avait profité de son sommeil pour tâcher de prendre les clés dans sa poche. Mais tandis qu'elle cherchait dans l'obscurité, il avait dit « Halte, n'y touche pas !» L'excès des larmes avait rougi et enflé ses paupières. Mais avant de partir, le père lui dit « Voici la clé de la première cave. Porte-lui à manger deux fois par jour, pas davantage. J'ai là une autre clé, celle de la cave à vin, je ne te la donne pas. Je me méfie. » Il vit sa face martyrisée et, ému soudain, il lui prit la main. « Chérie, dit-il gauchement, tu vas me croire un tyran. Ce n'est pas vrai. » Mon cœur se brise de devoir le punir aussi durement, mais c'est pour son bien, ma chère Pika. » Et il lui prit les deux mains. « S'il ne change pas, je serai au cimetière avant 2 mois. » »« Ah, ma pauvre, ça me fait si mal, là, si mal. Je deviendrai fou, je deviens fou. Je ne pense plus qu'à lui. Des fois, je voudrais être mort, mon Dieu, j'ai vieilli de 20 ans. » Les larmes ruisselaient sur ses joues rougeaudes. Il lui baisa les mains. « Pika, essaye-toi. Peut-être t'écoutera-t-il. Moi, je ne puis rien lui dire. » Et pourtant, son poing de nouveau menaça. Il doit renoncer à son projet, sinon il ne sortira pas vivant de mes mains. « J'essaierai, » dit-elle impatiente. Il l'embrassa encore sur le front blanc et monta dans la voiture. Elle tenait les clés. Je croyais tenir une flamme. Elle écouta. Et dès qu'elle n'entendit plus le chaos des roues, elle courut vers la cave, tâtonnant dans le noir. « C'est moi, ta maman, ta maman !»« Mère, mère !» sanglota François. Elle toucha la grille, elle sentit des bras entre les barreaux et à travers la grille, ils s'embrassèrent. « Maman, maman !»« Mon fils, mon fils !» Mais, brusquement, cette femme si douce devint comme sauvage. « Tu sortiras, » hurla-t-elle, « ton père dut-il me tuer, tu sortiras. Je ne veux pas que mes enfants soient traités comme des bêtes. » Elle tira sur les barreaux de fer. La porte cliqueta, ce fut tout. Une lime, relevant des mains sa jupe, elle remonta en courant. « une lime, » ordonna-t-elle au domestique, occupé à servir des clients. Il dut laisser là les clients et aider madame à chercher une lime. Il ne l'a jamais vue ainsi, effrayante. Mais il faut qu'il ait une lime pour qu'on en puisse trouver une. Ah, voilà une hachette. Nous briserons la porte à coups de hache. Le domestique cherchait encore qu'elle était déjà dans la cave. Et la hachette frappée sur la serrure, martelée, cognée. La noble dame aux petites mains délicates, la mère si douce, cognée de la hache sur le fer. Une mère saute dans le feu pour son enfant. Une mère saute à l'eau pour son enfant. Une mère brise du fer pour son enfant. Et le voilà suspendu, frissonnant au cou de sa mère. Elle entraîna en haut, dans la lumière du jour. Il était à genoux devant elle. Elle serrait sa tête entre ses deux mains. 1 mois qu'elle ne l'avait vu. Ses cernes bleues autour de ses yeux, ses blessures à son front, ses lèvres blêmes, ses joues émaciées, ses cheveux en désordre. Il manquait encore une couronne d'épines. Elle arrosa de ses larmes, le douloureux visage. Au crépuscule, il était debout, vêtu d'un habit de velours noir, un paquet à la main, prêt au départ. Il avait tout dit. En l'entendant, le cœur de la mère avait rayonné. Le songe qu'elle avait eu allait se réaliser. « Mère, dit-il, je retourne à Saint-Damien. Fais ce que notre Seigneur t'inspire. » « Et père, interrogea-t-il, inquiet pour elle. « Il n'est pas de cave si profonde que je ne t'en arrache, dit-elle fièrement. « Mais comment sont les mères? Quand on ensevelit un de leurs petits, elles lui mettent encore des chaussettes de laine et une flanelle. François allait de plein gré à la pauvreté, mais il ne pouvait pas pourtant lui refuser le plaisir. Elle le demandait avec tant de douceur émue de revêtir un bon costume, d'emporter un poulet rôti, une bouteille de vin vieux et un peu d'argent. Pour lui, pour le curé et pour l'église. Il ne peut s'empêcher d'en sourire. Pour un gueux, ce poulet rôti, ne lui donnerait-elle pas aussi une assiette en argent et une cuillère en or? Je pars, maman, dit-il. Prie beaucoup pour moi. Je ne vivrai plus que pour cela. Il y eut un silence. À la porte de la cuisine, ouverte par une fente, soufflait une haleine. C'était la servante qui écoutait. « Maintenant, je pars, maman. » Il l'embrassa. « Dieu soit avec toi, mon enfant. » Elle se mordit les lèvres. Elle le bénit, se détourna brusquement. Puis elle s'enfuit et alla frapper à la porte du palais épiscopal. La grande salle du palais épiscopal était bondée, un tribunal entre père et fils et l'évêque comme juge. Pauvres et riches, nobles et bourgeois, la populace des ruelles et les chevaliers des castels, moines et curés, tout ce monde se tenait là selon son rang, encaqué dans la pièce profonde où il faisait encore obscur à cause des petits vitraux verts bouteilles. Des cierges brûlaient. Le plus grand nombre près du trône où Monseigneur était assis, dans son long manteau d'or et coiffé d'une mitre blanche. À côté de lui brillait une grande croix d'or et derrière lui, une tapisserie représentait le jugement dernier. D'un côté se tenait François et de l'autre son père. La foule, curieuse, poussait, jouait des coudes. Soudain, quelqu'un qui portait une masse à panneaux d'argent cria « Silence !» Monseigneur se leva, haute et forte figure aux yeux durs, et dit au père d'exposer ses griefs, puis il alla se rasseoir. Pierre Bernardone salua l'évêque, avala deux fois sa salive, et avec un tremblement dans la voix. « J'ai cité mon fils à votre tribunal parce que c'est vous qui lui avez conféré les ordres mineurs. Je n'ai pas à exposer ici sa conduite. Toute la ville en est scandalisée. D'autres villes même se la racontent. Qu'on se mette un peu à ma place. Je le demande aux honorables bourgeois. Vous aussi, messieurs, vous avez des enfants. Voudriez-vous, alors que vous avez du bien, que votre fils s'acoquina avec l'écume de la ville, s'en alla jouer avec les lépreux, au risque d'introduire la contagion dans vos maisons, et que par-dessus le marché, il vous voilà encore et vous trompa. » Un murmure courait dans la salle, et on le sentait, c'était en faveur du père. Encouragé, celui-ci s'échauffa, énuméra tous les méfaits de François. Mais tout lui sera pardonné s'il cesse de causer du scandale. Il peut même rentrer chez moi, il ne doit pas travailler. Il recevra de l'argent pour ses pauvres. Il lui sera permis de faire des pèlerinages, d'entendre la messe tant qu'il voudra, pourvu qu'il se conduise avec dignité. Puis-je être plus généreux ? « Vous avez raison !» crièrent quelques voix. « Vive Bernardone !» Monseigneur lui avait laissé dire tout. Il fit ensuite la remarque. « En réalité, il s'agit ici de le déshériter. »« Oui, je le déshérite, s'il est résolu à continuer ce genre de vie. » Monseigneur se tourna vers François. « S'il en est ainsi, je te conseille de prendre les devants et de renoncer à tes droits de plein gré. » Mais alors, c'est une affaire combinée d'avance, cria le père. François s'avança, mince et pâle. « Monseigneur, je ne réclame rien, mon père, ni or, ni bien. Je ne demande que de pouvoir, sous votre garde, être pauvre et imiter Jésus. La décision dépend de vous. » La foule admirait cette soumission et cette pauvreté. Mais François renoncerait-il librement, sans condition, le cou tendu? Monseigneur dit, « C'est une belle preuve de ta confiance en l'autorité. La voie de la pauvreté est une belle voie, mais couverte d'épines, et l'ardeur de l'homme peut faiblir. Monseigneur, les hommes succombent, il est vrai. Jésus tomba 3 fois sous la croix, mais son Père ne l'abandonna point. Je compte sur le même Père, sinon je ne serai pas ici. » On vit les prêtres se dire l'un à l'autre que c'était très fort ce qu'il avait dit là. L'évêque lui aussi paraissait être de cet avis. « Ainsi donc, tu renonces volontairement à ta part d'héritage ?»« Oui, » sonna la réponse, brève comme un coup de pistolet. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Le père pouvait garder sa fortune, soit, mais il ne pouvait souffrir que François n'en parût point affecté. « Et cet argent que tu as pris chez moi, il me le faut aussi, jusqu'au dernier sou. » « Maman me l'a donné pour l'église le curé, c'est mon argent. » Alors Monseigneur dit, « Rends cet argent, François. Dieu ne veut pas qu'à son œuvre serve de l'argent peut-être mal gagné. » Le père écumant leva des bras indignés et François arracha d'un coup la bourse de sa ceinture et la lui jeta. Voilà ce qui n'y est plus a déjà été donné à la petite église. « Voleur !» cria le père en ramassant la bourse. « Il me faut tout, jusqu'au dernier sou !» Il frémissait de haine. De l'assistance partaient des cris, les uns de blâme, les autres d'approbation. L'homme au pommeau d'argent avait beau crier « Silence !» La rumeur persista. Alors, Monseigneur se leva et le peuple se tut. « Quelqu'un désire-t-il ajouter quelque chose ?» demanda-t-il. Il regarda François, le père et toute la salle. François eut un frisson de honte en entendant son père chicaner pour cet argent. C'était là le dernier coup de cognée pour détacher la branche de l'arbre. « Un instant » cria-t-il avec passion. Il courut se cacher derrière la tapisserie. La tapisserie remuait, tout le monde y tenait les yeux fixés, même le père et Monseigneur. Un silence énorme. La tapisserie remuait. Le dernier jugement s'animait. Les morts, les anges, les démons bougeaient et Jésus sur son nuage. Soudain, François reparut, tout nu, un corps maigre et chétif, les vêtements sur le bras. Il les laissa choir aux pieds de son père. « Même mes habits, je vous les donne. Me voici tel que je suis né. Nous sommes quittes maintenant. » La foule criait. Hurler, transporter, « Bravo, bravo, vive François !» L'évêque alla vivement à François et le tira sous sa chape. Un saint manteau de brocart et de gemmes couvrit d'un coup la nudité du pauvre volontaire. Dans son trouble, le père qui ramassait les habits ne put prononcer une parole. Sa malédiction lui restait dans la gorge, mais flambait dans ses regards. Ses bajoues tremblaient. La tête hors de la chape, François cria d'une voix claire, « Vous tous, écoutez, jusqu'au jour présent, Pierre Bernardone fut mon père. Désormais, je ne dirai plus « mon père Pierre Bernardone », mais « notre père qui êtes aux cieux ». Il tendit alors ses bras nus vers la croix d'or. Des clameurs de joie houlèrent par la salle. Quel homme ! L'évêque lui-même écrasa de l'index une larme au coin de ses yeux durs et entraînant François, caché sous sa chape, se rendit dans une chambre voisine, tandis que les cris et les gestes fêtaient toujours François. « Vive François ! Honneur à lui ! Bravo ! Bravo ! Chassez-le ! mais ceci c'était pour le père. Celui-ci se sauva, furieux. Une fois dans la rue, il se rendit compte combien il était ridiculement odieux, les bras chargés ainsi des vêtements de son fils. « Damnation » grommela-t-il, et il lança les habits dans le ruisseau, les piétina comme on étouffe du pied un feu. Alors il poussa un cri et tomba, pleurant, dans les bras d'un digne seigneur, son ami. Une chanson française sonne haut et clair sur les montagnes et dans les bois. C'est François qui s'en va et ne sait comment crier son bonheur parce qu'il est absolument pauvre maintenant. Aujourd'hui, il a épousé Dame Pauvreté et voici son voyage de noces. Et il chante et il marche. Où va-t-il? Il n'en sait rien. Peu importe où, il a besoin de marcher et de chanter. Comme une alouette qui vole dans l'azur et chante sa joie. Des alouettes, il y en a partout, car le printemps est là avec sa jeune verdure. Le printemps fait fondre la neige dans les failles du rocher. Cela met ça et là la joie d'une eau froide, claire, dont François aime boire une gorgée dans ses mains. Que peut-on avoir de mieux que l'eau courante des montagnes? Claire comme le cristal, fraîche comme un matin. François est vêtu comme un épouvantail. Une défroque de jardinier, les manches trop longues, le pantalon en soufflet d'accordéon, il est petit de taille. Son chapeau s'enfonce sur ses oreilles. Il a jeté sur ses épaules un manteau en haillons dont il a marqué le dos à la chaux d'une grande croix blanche. Ainsi va-t-il par les bois sombres en chantant. Voilà le deuxième jour. Il a dormi sous les saintes étoiles. Ses yeux brillent d'un éclat profond. Tout à coup, dans cette solitude, se dressent devant lui trois hommes farouches, hirsutes, armés de coutelas. Ce sont les bandits, les maîtres des bois qui ont ici, tels des ours, leur repère et qui attaquent quiconque s'aventure par là. Qui donc ose les déranger par ce chant? Qu'on siffle de peur dans l'obscurité, soit, mais chanter ainsi, joyeusement, dans cette contrée infestée de bandits. Les trois hommes jugent l'audace excessive. Et c'est cet avorton-là qui se permet? Le plus grand demande. « Qui es-tu ? » « Puisque tu désires le savoir, dit François, je suis le messager du grand roi. » Et son doigt montra le ciel. « Ah, ce maigre air se moque donc d'eux ! » !»« Vlan !» Un coup violent l'abattit. Tous trois, se ruant sur son corps, le rouèrent de coups, lancèrent son chapeau dans un arbre, lui arrachèrent ses habits et le poussèrent dans une crevasse. La neige y formait encore une couche épaisse. Loué soit Dieu pour la neige, sinon il eût été réduit en esquille. Il gisait dans la neige, vêtu seulement d'une vieille chemise. Il entendit les hommes partir en riant. À grand-peine, il parvint à se tirer de là, d'un tout autre côté. Que chanter maintenant? La même chose. Le froid de la forêt collait à sa chair. Le vent agitait ses derniers haillons. Il les noua tant bien que mal et poursuivit sa route en chantant. Il aperçut un renard qui l'observa d'abord un moment, puis se sauva. « Petit renard, mon ami, ne te sauve pas. Je suis aussi pauvre que toi et point meilleur. Je suis ton frère. » Mais le renard courait toujours, incrédule. François déboucha dans une clairière. « Tiens, oui, il la connaissait du temps qu'il allait à la chasse. Ici, ils avaient un jour capturé un cerf. Oui, oui, et non loin d'ici, il y avait ce petit couvent des pères. Allons-y. » Il demeure là aussi des hommes qui ont consacré entièrement leur vie à notre Seigneur. Ah, pour voir vivre là quelque temps, dans cette atmosphère de prière et de fraternité chrétienne, quelle chance ce serait! Plein de vénération et de désir, il frappa à la porte. Tous vinrent ouvrir à la fois, les pères et les frères, tant une visite était rare. « Pour l'amour de Dieu, dit François, il leur conta en peu de mots et demanda de pouvoir résider quelques jours parmi eux. Le prieur était un homme sans façon. Il avait plus envie de les conduire que de l'admettre, et les autres aussi prenaient un air maussade. mais parce que leurs règles les obligeaient à héberger les errants et à voir Jésus-Christ dans les mendiants, il fut admis. « Mais il s'agit de travailler, » dit le prieur. Et le cuisinier ronchonna. « Si tu crois que tu vas vivre à nos crochets, tu te trompes. » Il y travailla comme un bœuf. On lui confia les plus viles besognes. Frotter le parquet, laver la vaisselle, prendre soin des porcs. Il dormait sur un peu de paille, se nourrissait des déchets des auges. C'était un couvent sans beaucoup de discipline. Les uns y avaient autant à dire que les autres. Ils étaient tous prieurs. Cette éternelle solitude les avait rendus grincheux et brutaux. Mais ils ne purent chasser le soleil de son âme. Il demeura serviable, gai et poli. Cela, ils ne purent le souffrir. Et après une quinzaine de jours, pour une bagatelle, le cuisinier le renvoya. Il était vêtu de quelques guenilles. Mais le bon soleil, n'est-il pas le vêtement le plus chaud qu'on puisse trouver ? François n'était plus loin maintenant de la petite ville de Gubbio. À Gubbio demeurait un de ses anciens amis, un poète. S'il allait visiter cet ami à Gubbio, un besoin de confidence, le désir d'ouvrir son cœur tout large à quelqu'un, il alla à Gubbio. Il retrouva cet ami, mais celui-ci n'était pas du tout enchanté. Ne pouvant admettre tant d'excentricité, il essaya de détourner François de ses bizarres desseins. Il était si gêné qu'il le prit à part dans une petite chambre et n'osa pas sortir avec lui. François se moqua de lui et parla de Jésus et de la pauvreté avec tant de feu que son ami en pleura. Mais ce dernier ne changea point d'avis. Il supplia François de se conduire autrement. Il lui apporta des habits. François les trouva trop beaux. À la fin du compte, l'ami alla chercher au grenier un vieux costume de pèlerin de feu son père. François en fut ravi, ce costume était déjà sanctifié. Et vêtu en pèlerin, il repartit, mais pas bien loin, car ce cœur, ce chaud cœur d'homme, avait aussi ses caprices. Que le printemps était beau avec ses fleurs et sa verdure, mais il était bien plus beau à Assise. Hélas, oui! Comme tout y était doux. Et François y connaissait un bon petit curé, une vieille églisette à rebâtir, une croix sacrée, des lépreux et une mère. Tout cela l'attendait, se suspendait à ses pensées. Il ne chantait plus. Une poignante nostalgie l'envahit, la nostalgie de cette ville, de cette contrée, de ces hommes. Et comment résister au mal du pays ? Il marchait comme dans une prison, une belle et haute prison, vaste comme un monde, mais une prison quand même. Il s'arrêta dans une douce vallée aux larges échappées. Au-dessus de lui, un oiseau passa, volant vers le sud. « Moi aussi, » dit-il. Il fit demi-tour et marcha dans la direction du sud. Alors, il se remit à chanter. Et lorsque, après 2 jours, il vit du haut de la montagne, Assise, attroupée en rond, blanche au soleil, il tendit ses bras vers elle, comme un enfant vers sa mère, et il cria. « C'est là que je dois être jardinier !»
Thank you.
sous le soleil brasillant, François, chaussé de souliers trop grands, s'avance vers Assise. Tout le monde cherche un coin à l'ombre, lui marche au soleil. Sur la grande place, il va droit au temple grec et, debout sur la base d'un pilier qui l'entoure d'un bras, tandis qu'il lève l'autre, il se met à chanter. La mélodie résonne claire par-delà la placette quiète contre les maisons d'en face. Mendiants et paresseux bougent dans l'ombre. Des curieux paraissent au seuil. Le silence de la campagne pend jusque dans la ville et le chant de François emplit ce silence comme un son de cloche. Qui est-ce donc ? Parbleu, mais c'est François Bernardone qu'on a admiré comme un héros. Tiens, le voilà donc revenu. Quelle pitrerie va-t-il encore nous servir ? Un à un, les curieux s'approchent, à demi railleurs. Ils chantent toujours. Et quand s'est formé autour de lui un cercle assez compact, il dit « Et maintenant, la chanson de Parsival, qui, de folle qu'il fût, devint un saint chevalier. » « Quel ciel dans cette voix !» murmure quelqu'un. Et quand il a fini « Savez-vous pourquoi je me trouve ici à chanter ?»« Pour vendre ta sueur !» crie quelqu'un. C'est Angelo, son frère. « Tu ne pourrais me la payer assez cher, » réplique François. « Je la vends à notre Seigneur. » Il paye, lui, le prix fort. Angelo fit la grimace et se sauva, confus. Et François dit aux gens, « Voilà, je suis devenu le maçon de l'église de Saint-Damien qui tombe en ruine. Elle renferme une belle croix. Qui prie devant cette croix sera exaucé. N'est-ce pas dommage que des ruines doivent abriter une croix aussi belle ? Vous habitez une maison, et quand le toit est crevassé, vous le restaurez, et nous laissons périr la maison de Dieu. » C'est très mal de notre part. Il est mort pour nous. Reconstruisons sa maison. Oui, mais vous avez chacun vos occupations. Eh bien, je rebâtirai pour vous. Seulement, vous savez que le curé de Saint-Damien est pauvre, et moi, qui demeure chez lui, je vis des miettes de cette pauvreté et je m'en contente volontiers. Et maintenant, je viens vous demander, au nom de notre Seigneur, de me procurer des pierres, de la chaux, une truelle, un fil à plomb, et quoi encore ? Il ne faut pas me donner ça pour rien. Je vous paierai en chansons et en prières. Qui donne une pierre a en outre du mérite devant Dieu. Qui en donne deux a mérité double, et ainsi de suite. Comme vous n'avez pas des pierres en poche, vous pouvez me donner de l'argent pour en acheter chez l'entrepreneur. Ou bien, payez directement l'entrepreneur. Maintenant, une chanson d'abord, puis je ferai la quête. Tout à coup, le mercier du coin, connu pour son avarice, s'écria « De moi, tu n'auras pas une demi-pierre. » « Cela ne se pourrait pas d'ailleurs, » répliqua François. « Il te faudrait casser ton cœur en deux. »« Bravo !» cria la foule. « Bien tapé !» Furieux, le mercier s'en alla. Et François chanta une romance connue. Il y eut des gens qui pleuraient vraiment d'émotion. Un fils de bonne famille et si jeune, qui vêtu comme un valet de ferme, mal chaussé, il a achanté plein d'ardeur pour mendier quelques pierres et un peu de chaux. Ils donnèrent tant d'argent que ses deux mains rapprochées le pouvaient à peine contenir. « Merci, merci, quand je n'aurai plus de pierres, je reviendrai, » cria-t-il. Et suivi d'une bande de gamins, il s'en fut chez l'entrepreneur. Une vingtaine de minutes après, on le vit revenir, courbé sous un sac de chaux, une vieille truelle fichée dans sa ceinture. « Les gosses, il aime ça, porter des pierres. » Qui trois, qui quatre. Ah, mais c'était de fameux blocs. François et ses premiers petits aides. Ce n'est pas un jeu que de s'improviser maçon. Il vous faut une échelle, un échafaudage, des cordes, des cuveaux, une pelle, un fil à plomb, que sais-je encore. Et quand il faut rassembler tout ça au prix de chansons. Chaque jour de grand matin, il était à son travail, sifflant et chantant. Il y avait là dans le mur une ouverture, effet d'un tremblement de terre, par où le vieux curé passait quelquefois pour s'épargner la peine de pousser la porte qui s'ouvrait difficilement. François commença par fermer cette crevasse. Et puis, tailler des pierres, faire du mortier, traîner des pieux coupés dans le bois, placer l'échafaudage. Au bout de 3 jours, il aurait fallu voir ses mains, rayer des égratignures, de la poussière et de la chaux plein les rides. Il travaillait du matin au soir comme un ouvrier à l'heure, et le soir, il ne se sentait plus le dos de fatigue. Alors, ce lui était un délice au crépuscule de dire des prières et d'aspirer à Dieu avec le petit curé. C'était des jours féconds. Il trouvait encore le moyen de donner un coup de main de ci, de là à son vieux maître. Traire la chèvre et autres besognes de pauvres. Et deux fois par semaine, il allait visiter les lépreux. Le petit curé, de son côté, voulut se rendre utile en présentant les pierres ou par d'autres menus services. « Laissez ça, dit François. Votre part, c'est de prier pour que les pierres viennent à nous. » Et elles venaient à lui, les pierres. Le plus souvent, c'était des enfants qui les apportaient, avec les compliments de leurs parents qui demandaient un ave. De temps en temps même, le domestique de l'entrepreneur amenait une pleine brouette de pierres, d'ardoises et de chaux. « Mais qui vous fait apporter tout cela ?»« Quelqu'un qui ne veut pas être connu, dit le valet. » François pensait que c'était sa mère. Il s'informa auprès d'entrepreneurs et par un mendiant qui y travaillait quelquefois, il parvint à savoir que le donateur était le seigneur Bernard. Qui aurait cru cela? Messire Bernard était un homme riche et paisible, du même âge que lui et qui n'avait jamais été son ami, mais qu'il connaissait bien pour avoir été son condisciple à l'école des pères. Désormais, en le rencontrant, François le saluait comme à son ordinaire, feignant d'ignorer tout de la provenance des pierres. Ce fut un bel été, je veux dire dans les cœurs, car il y eut pas mal de pluie, de tonnerre et de vent. Les jours de semaine où le vieux curé ne célébrait pas, François allait assister à la messe en ville. Et avant comme après son oraison, il jetait autour de lui un regard, cherchant sa mère. Il ne la vit point. Depuis qu'elle l'avait délivré de la cave, il ne s'était plus revu. Il en souffrait. Il eût tant aimé savoir ce qu'elle pensait de lui maintenant, et pour ne point se tromper, il ne s'informait auprès de personne. Souvent, le soir, quand il était assis avec son curé à contempler la vallée, il se sentait gagné par la tristesse, et il lui arrivait de demander alors au petit vieux « Si nous prions un peu pour ma mère ?» Et alors, il priait très longtemps pour sa mère. L'églisette revivait, refleurissait, rajeunie, coquette, plaisante à voir. Et François en badigeonna l'intérieur. Dommage que l'hiver fût proche, sinon elle eût été achevée cette année. Les raisins mûrirent, le temps de la vendange arriva. Et ce fut un de ces jours-là que François, pénétrant dans la petite grange, y surprit le vieux curé en train de compter ses pauvres sous et se disant à part soi. Et il aime de temps en temps une tranche de lard, et le lard est cher, mais il faut pourtant qu'il mange bien, le pauvre petit, sinon il ne tiendra plus debout à cause de tous ses jeûnes et pénitences. Comment m'y prendre pour pouvoir lui donner un peu de lard dimanche? Bah, je mangerai moi-même un peu moins. De la farine pour le pain, il n'y en a plus. François sortit en silence et, dehors, se frappa des poings le front. « Imbécile que je suis, j'ai épousé Dame Pauvreté et je vis aux dépens d'autrui. Fini cela, chacun doit mériter son pain. » Le lendemain, au bord du petit ruisseau, il grattait, rinçait, frottait le seau à chaud. « Comme tu les nettoies bien, lui dit le curé, on dirait que tu dois y manger. »« C'est ça, exactement, lui cria François à l'oreille. « Je veux gagner mon pain, je m'en vais mendier. » Le curé protesta. « Ne fais pas cela, j'ai assez de nourriture. Laisse cela, par respect pour ta mère. » Notre Seigneur m'en a donné l'exemple. Il n'y a pas de honte à l'imiter, répliqua François. Et le voilà en route pour Assise. Cependant, son cœur lui battait dans la gorge. Par où commencerait-il? Chez les pauvres, où le pourrait-il mieux? La porte d'une pauvre cabane était ouverte comme une invite, il y alla. Pour l'amour de Dieu, un morceau de pain. Une femme parut sur le seuil, un enfant sur le bras. « Et n'était-ce pas là ce jeune homme riche qui s'était fait pauvre ? Elle en était saisie. « Monsieur, dit-elle, je n'ai rien qui vous plaira. Je n'ose rien vous donner. Nous sommes si pauvres nous-mêmes. Donnez quand même, le moindre morceau est le meilleur. » La femme alla chercher dans une armoire et versa dans le petit seau du mendiant des restes de haricots verts et un croûton de pain noir. « Dieu vous en bénira. » Et il poursuivit son chemin. « Où s'arrêter maintenant ?» Là, à cette grande maison de maître, des amis de ses parents, il gravit les marches du perron. À la servante qui ouvrait, il demanda à manger. Ce ne fut pas la servante qui revint, mais le seigneur lui-même, un bel homme aux cheveux blancs et la dame observée par une porte du vestibule. « N'as-tu pas honte, cria le vieux seigneur bourru, de faire ce déshonneur à ton vénérable père ? Fainéant, mauvais fils, va-t'en ou je t'envoie mes chiens à tes choses. » Et il ferma la porte au nez brutalement. « Dieu vous bénira, dit François à cette porte. Et maintenant, chez l'épicier d'en face, là, toute la famille vint sur le seuil. Personne ne lui dit rien, mais ils lui donnèrent une tranche de pain et des déchets de viande salée. Ils le regardèrent s'éloigner et coururent en parler aux voisins. Il ne voulut pas sonner chez le seigneur Bernard. Le voici chez le père de Mariette. Ah, comme il riait celui-là, comme il riait. Il se tenait les côtes. Eh, voilà donc le hardi troubadour de naguère. Ah, ah, rit bien qui rit le dernier. De donner quelque chose ? Très volontiers. À un pauvre diable comme toi, ça l'a touché avec des pincettes. Volontiers, très volontiers. Mariette, apporte-lui donc les choux rouges d'avant-hier. Ils sont presque noirs sans doute, mais qui a faim ne s'en aperçoit pas. Tu peux revenir chaque jour, je t'engraisserai, va. » Mariette obéit à contre-cœur, mais François lui dit en souriant. « Donnez, mademoiselle, mieux vaut noir dans l'estomac que noir dans l'âme. » Il heurta encore à quelques portes, mais ne recueillit qu'insultes et railleries. Quelqu'un lui fit observer. « On ne te donne rien, et tu dis quand même, Dieu vous bénira. » « Dieu vous récompensera de ma voix humiliée, » répondit François, « car j'ai besoin d'humiliation plus que de pain. » Il alla frapper au palais de la noble et célèbre famille Siffi. Un laquais vint ouvrir. Au même instant entra en courant dans le somptueux vestibule une jeune demoiselle, svelte, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, avec une fillette plus jeune. Les deux enfants s'arrêtèrent, regardant le mendiant. « Voilà donc le seigneur François qui s'est fait pauvre pour Jésus, » dit la demoiselle à sa petite sœur. Elles le regardèrent avec étonnement. « Veuillez revenir demain, » dit le laquais. « Demain, c'est le jour où la famille Siffi donne aux pauvres. » François allait partir, mais la demoiselle intervint. « Non, non, donnez aujourd'hui quelque chose à monsieur. Attendez, j'ai encore quelque chose moi-même. » Elle courut dans une chambre et en revint aussitôt avec une belle grappe de raisin et une poignée de gâteaux. « Ce n'est pas la pitance de pauvre, mademoiselle Claire, » protesta François. « Oui, je vous reconnais. Jadis, vous veniez avec madame votre mère acheter de la soie dans notre boutique. » Elle le considéra avec respect et, comme en rêve, lui mit dans les mains la belle aumône. « Dieu vous bénisse, mademoiselle, » dit-il, en s'inclinant profondément. Quand il fut dans la rue, « Maintenant, j'ai des vivres pour toute une semaine. » Il eut envie de sortir de la ville pour dîner, mais y devinant un sentiment de fausse honte, il le surmonta. Il alla s'asseoir sur la place à la fontaine. Il réserva le raisin et les gâteaux. « Pour le curé, ce brave petit homme, » murmura-t-il, naïvement heureux. Il jeta un coup d'œil dans le seau et le cœur lui tourna en voyant cet infâme mélange de relief et de déchets. Prudemment, du pouce et de l'index, il épêcha un morceau de viande et y mordit à longues dents. Il le mangea sans trop d'horreur. Puis il prit quelques hachures de choux rouges. Il les laissa retomber. Il leva les yeux. « Jésus » supplia-t-il. Penché à une fenêtre, une femme avec un petit garçon l'observait. Un doute lui vint. Était-il bien obligé ?« Jésus » lui demandait-il autant. Tout à coup, il se mit à rire. « Est-ce que l'âme en goûte quelque chose ? Frère Anne, mon garçon, tu te laisses encore mener par le vilain diable, fille. » Il se prit à manger à pleine bouchée. Il fermait les yeux, faisant semblant de savourer cette infecte nourriture, la broyer, la mâcher. « Il faut que ce soit à mon goût, il le faut. » Et il s'obstina à manger, les yeux fermés. « Frère Anne, regarde !» et les yeux ouverts, il absorba les restes de la table des riches et des pauvres. Il mangea à sa faim. La sueur lui coulait dans la barbe. « Le reste servira ce soir et demain, » dit-il. Alors, dans ses mains rapprochées en coquille, il but deux bonnes gorgées d'eau à la fontaine. « C'est meilleur que je ne croyais. » La joie perla dans son âme et, amicalement, plein de reconnaissance, saluant le ciel. « Merci, Seigneur, de m'avoir rendu semblable à vos petits oiseaux. » Et en chantant, il rentra à Saint-Damien. Au revoir, chers amis. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.